Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Positive Librairie avec Mola et Moho. Dans cet épisode-là, nous allons explorer le champ de l'intelligence artificielle. Nous allons savoir pourquoi cette intelligence artificielle peut être un confort, mais également un piège sur lequel il faut peut-être éviter de tomber. Et il y a des manières de faire pour placer l'intelligence artificielle au bon endroit, à la fois dans notre quotidien, et aussi certainement dans l'avenir. Marion Carré a publié Le paradoxe du tapis roulant aux éditions J.C. Lattès. Bonjour Marion.
Bonjour.
Est-ce que, avant peut-être de revenir sur le livre, vous pouvez revenir sur votre parcours, d'où venez-vous et comment ce livre est-il apparu?
Avec plaisir. Je dirais que ça fait près de 10 ans que je suis tombée dans le bain de l'intelligence artificielle. D'abord en faisant ce que j'appelle mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que je suis la cofondatrice et présidente d'une société innovante qui s'appelle Ask Mona, qui développe des dispositifs d'intelligence artificielle pour. On est connu pour travailler avec les lieux culturels. Et notre enjeu, c'est de mobiliser l'intelligence artificielle au service de la curiosité. Donc, on a travaillé avec des institutions culturelles dans le monde entier. Et donc, moi, ça m'a permis de voir de près des dispositifs d'intelligence artificielle et donc tout ça bien avant la vague de l'IA générative. Et en fait, assez rapidement, j'ai eu envie de prendre du recul sur ce sujet pour analyser l'impact de l'intelligence artificielle sur la société. Donc, je l'ai fait à travers différentes casquettes, aussi bien, par exemple, en enseignant, notamment à Sciences Po Paris depuis plus de 8 ans, il me semble, mais aussi en donnant des conférences, pareilles dans le monde entier, et en intervenant comme experte dans différentes instances, que ce soit des comités stratégiques de l'IA ou auprès de la Commission européenne, et aussi une casquette que je qualifie de plus créative, où j'ai à la fois fait des créations artistiques qui mobilisent et interrogent l'IA, et aussi publié plusieurs ouvrages à ce sujet.
On peut considérer que vous êtes sur la crête de l'intelligence artificielle et vous avez une vue assez large du sujet. Lorsqu'on tombe dans les librairies Mola, forcément, sur le titre de votre livre, Le paradoxe du tapis roulant, l'idée de paresse ou du paresseux arrive très très vite. On se laisserait donc porter par quelque chose, par une vague. Ce que je voudrais comprendre, et pour les paresseux qui n'ont pas travaillé leur sujet, quand on entend parler d'intelligence artificielle, de quoi on parle effectivement? Est-ce que vous pouvez nous donner une espèce d'overview de la situation, l'intelligence artificielle générative, la super intelligence artificielle? Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, donner un état des lieux en fait, de ce qui est en train de se passer et de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant?
Alors, effectivement, on va commencer par là parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on connaît à la fois bien et mal, dans le sens où on entend parler tout le temps, donc on se dit je sais ce que c'est. Et en même temps, c'est un mot valise qui peut recouvrir des choses assez différentes. Donc déjà, l'intelligence artificielle, en soi, on peut considérer ça comme une discipline qui n'est pas neuve, hein. Ça émerge, alors c'est toujours des dates qu'on peut discuter, mais grosso modo, dans les années 50-60, on a déjà une discipline qui émerge avec très tôt, en fait, des cas d'usage qui sont ceux d'aujourd'hui qu'on anticipait déjà. Par exemple, dans les années 60, on s'intéressait à la traduction automatique. Dans les années 80-90, on parlait déjà de génération de textes, d'images, mais la technologie n'était pas encore, on va dire, complètement prête pour faire ce qu'on fait aujourd'hui ou pas aussi performante. Et après, sur donc intelligence artificielle, c'est un champ de discipline qui est donc très vaste. Il y a des choses qui sont de l'ordre de, par exemple, la reconnaissance de signaux, de la reconnaissance visuelle, de la reconnaissance de texte, du traitement de la voix. C'est vraiment, il faut le voir comme une sorte de grande famille de champs de recherche et d'exploration. Et souvent, j'aime bien prendre la métaphore des poupées russes. On va dire que la grande poupée russe, c'est l'intelligence artificielle. Et dedans, il y a des plus petites poupées russes, parmi lesquelles, notamment le machine learning, qui est toute une discipline sur comment est-ce qu'on peut apprendre aux machines à faire des choses à partir d'exemples. Le deep learning, qui est encore une plus petite poupée dedans. Et il y a ce champ de recherche sur l'intelligence artificielle générative, qui n'est pas nouveau, mais qui a pris son envol, effectivement, ces dernières années, avec un point de bascule que je situe sur le lancement de ChatGPT, parce qu'en fait, avant, on faisait tous un peu d'intelligence artificielle sans le savoir, dans le sens où dans nos boîtes mail, sur les applications de streaming de musique ou de séries, par exemple, il pouvait y avoir des algorithmes d'intelligence artificielle qui travaillaient pour nous, mais sans qu'on en soit pleinement conscient. Et le point de bascule, c'est que depuis le lancement de ChatGPT et de toute cette galaxie d'outils d'IA génératif grand public, on peut chacun aller utiliser une intelligence artificielle en lui demandant, avec nos propres mots et notre propre langage, donc sans coder, de faire des choses pour nous. Et je pense que c'est ça qui fait que le sujet est vraiment rentré dans le champ du grand public, parce qu'avant, on en parlait, mais moi, j'ai observé un point de bascule là-dessus.
Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on considère être les algorithmes d'Instagram, de Google, de Snap, de tous ces grands réseaux utilisent depuis longtemps l'intelligence artificielle?
Oui, tout à fait. Il y a effectivement des algorithmes de recommandation qui utilisent l'intelligence artificielle. Et donc, il y a différentes logiques là-dedans, mais pour pouvoir, en gros, segmenter des utilisateurs pour savoir à qui pousser quel contenu en fonction de ce qui a le plus de chances de lui plaire. Donc, tout à fait.
Avant de rentrer encore une fois dans le livre, et vous parlez également du thème que je voudrais aborder ici, c'est assez cartésien ce que je vais dire, mais ça correspond aux questions qu'on entend aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est un bien ou c'est un mal?
La grande question. Alors, à cette question de bien ou mal, on peut assez vite répondre en disant « mais c'est un outil, c'est comme un marteau ou un stylo, tout dépend de ce qu'on en fait ». Bon, le stylo, c'est un peu plus anodin. Le marteau, on peut réparer sa maison comme on peut faire du mal à quelqu'un. Donc, on pourrait répondre ça. Après, quand on dit « outil », on en reparlera plus tard, je pense, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est neutre, comme ce qu'on pourrait avoir tendance de croire vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Mais cette question de bien ou de mal, pour moi, elle se situe vraiment dans le champ des usages, en se disant que finalement, en tant qu'outil technologique, il y a un grand nombre de possibles, et ces possibles peuvent avoir des impacts positifs ou négatifs, et donc c'est à nous, en tant qu'humains qui construisons ces dispositifs, de pouvoir arbitrer sur ce qu'on veut faire en allant à l'encontre d'une croyance où souvent on se dit « c'est possible techniquement, donc il faudrait le faire ». Et je pense qu'on a des questions à se poser là-dessus sur qu'est-ce qu'on veut faire ou non dans les usages de cette technologie.
On est en 2026, on parle beaucoup de guerre, on parle beaucoup de défense, on parle beaucoup de souveraineté, on parle beaucoup de « il y a des enjeux aujourd'hui ». De réchauffement climatique, il y a des enjeux aujourd'hui qui dépassent véritablement l'individu. C'est un outil. Vous dites que l'important, c'est l'intention humaine qu'on va donner derrière ces outils. On peut comprendre que le contexte actuel crée une certaine crainte, une certaine peur et un certain fantasme également autour de cet enjeu.
Tout à fait, sachant que quand on se dit qu'il y a l'intention humaine, il y a, j'ai envie de dire, différentes couches d'intention. Il y a qu'est-ce qu'on fait en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on fait en tant que société, et qu'est-ce qu'on fait aussi quand on développe ces outils, quels sont les choix de conception qu'on va faire. Donc c'est vrai que cette notion finalement de responsabilité, elle se joue à des niveaux différents.
Pourquoi ce titre, le paradoxe du tapis roulant ?
Alors, ce paradoxe du tapis roulant, pour moi, c'est une façon d'avoir une image assez forte pour décrire, j'ai le sentiment qu'on est à la croisée des chemins entre deux voies. La voie du tapis roulant, où finalement, on monte, on va dire, sur le tapis roulant de l'intelligence artificielle en se disant qu'on veut aller plus vite, être plus rapide, être plus productif, en se disant au passage que ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'idées. Et donc, on monte avec cet entrain et petit à petit, on se laisse porter sur le tapis roulant. On se repose de plus en plus dessus et à la fin, si on s'appuie trop dessus, on se rend compte que ce tapis roulant nous emmène tous dans la même direction. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on veut monter dessus pour être plus rapide, plus d'idées, plus de créativité, sauf qu'à la fin, on raconte la même chose que tout le monde. Donc, c'est paradoxal, mais je pense que ce n'est pas une fatalité et j'oppose à la voie du tapis roulant la voie du tapis de course, où cette fois-ci, on vient renverser l'usage qu'on fait de la machine, non pas pour se laisser porter, mais pour on va dire, courir à contre-courant et donc avoir une forme de friction qui renforce l'effort cognitif qu'on fait pour se servir de la machine. Donc, je pense qu'il y a ces deux voies que je schématise comme ça sur comment est-ce qu'on décide de s'emparer de ces technologies.
Alors, dans le livre, vous parlez de paresse intellectuelle, qui est un vrai risque, Et si vous reprenez l'exemple du tapis roulant ou du tapis de course, moi, m'est venu l'idée de, enfin, le terme de flemme, ce qui est différent de la paresse intellectuelle. Donc, c'est la flemme, on va dire. Enfin, je peux vous laisser définir ce que la différence entre les deux, mais on voit qu'il y a un petit iota quand même.
Là, mon sous-titre, ça aurait pu être une option. J'ai pas osé le proposer, mais c'est vraiment cet enjeu de. Et alors, la paresse intellectuelle, effectivement, on est sur un terme qui n'est pas celui de la flemme, mais il y a quand même cet enjeu de quotidien. Mmh. En se disant, à mon sens, quand on est sur le niveau de l'individu, il y a quelque chose qui se joue au quotidien dans les décisions qu'on prend vis-à-vis du choix qu'on fait de cet outil. Et après, le terme de paresse intellectuelle, il nous permet de sortir juste de la flemme, on va dire, qui est au niveau des individus, pour aller plus globalement sur ces enjeux sociétaux, sur comment est-ce qu'on va articuler un certain nombre de choses autour de ces outils avec des usages qui peuvent être bénéfiques ou problématiques en fonction des choix qu'on fait.
Alors, si c'est un tapis roulant, il y a une idée de confort, il y a une idée aussi de piège. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui, aujourd'hui, est si séduisant dans l'intelligence artificielle au quotidien ?
Alors, c'est intéressant parce que, et c'est ce que j'analyse dans l'ouvrage notamment, il y a déjà tout un certain nombre de discours qui sont produits autour de cette technologie, ne serait-ce que si on s'arrête sur les slogans. Ce qui revient très souvent, c'est l'enjeu d'être plus créatif, plus d'idées. Et d'être plus rapide, de se séparer, on va dire, d'un espèce de fardeau de tâches à produire, etc. Donc, on est vraiment sur cette idée de rapidité, de confort et de créativité. Donc ça, c'est les slogans. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a un effet, on va dire, performatif de ces slogans, parce qu'ensuite, on a différentes études qui vont montrer que on a des répondants qui vont dire qu'ils ont le sentiment d'avoir plus d'idées ou d'être plus créatifs quand ils utilisent l'intelligence artificielle, d'être plus rapide. Il y a un certain nombre de chiffres qui circulent sur des heures gagnées par jour grâce à l'usage de l'intelligence artificielle dans le travail notamment. Donc, il y a tous ces, on va dire, discours qui se retranscrivent ensuite dans des études avec et des discours aussi d'utilisateurs avec cet aspect, on va dire, performatif et auto-réalisateur, même si on peut aussi en interroger les limites.
Et dans le quotidien, par exemple, quand on parlait de créativité, donc moi j'utilise des outils d'intelligence artificielle à la fois évidemment pour corriger mes textes, pour optimiser mes textes, mais également pour aller chercher de la créativité, de l'image, des nouvelles images, des nouveaux. Sauf que ce qui se passe, c'est que les images que je trouve, on l'a vu avec ce qui s'était passé il n'y a pas très longtemps avec ce réalisateur japonais, c'est qu'à un moment, ça colore les réponses de l'intelligence artificielle et que là où je vais chercher de la créativité, je me retrouve dans une norme identique à tout le monde et je dois réécrire un prompt pour dire non, en fait, c'est pas ça que je veux, c'est pas cette tendance, c'est une autre. Et ça, c'est assez. Du coup, ça rend l'intelligence artificielle, enfin, en tout cas, les outils comme ChatGPT, Gemini, Claude ou les autres, assez moins séduisants.
Sur la créativité, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment il y a la voie tapis roulant, tapis de course dessus. La voie tapis roulant de la créativité, c'est je vais par exemple demander à ChatGPT ou autre outil de me donner des idées de telle chose. Et j'ai un réalisateur qui me disait, moi je demande 10 idées et je sais que c'est les 10 idées que je dois pas faire parce que c'est les 10 idées que tout le monde peut avoir. Et il y a plein de générateurs d'idées diverses et variées sur ces outils, que ce soit des idées de recettes, bon, c'est pas très grave de faire les mêmes recettes que tout le monde, mais aussi des idées de livres, de boîtes, un peu avec ce fantasme préexistant, et c'est ça aussi que je creuse dans le livre, c'est que ça sort pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a depuis très longtemps une envie de trouver la bonne idée, un besoin d'être plus créatif, de se distinguer, et donc ces outils sont une sorte de nouvel outillage justement pour nous rendre plus créatifs, pour débloquer notre créativité. Et donc on a ce type de pratique où je vais lui demander une idée, une image, une vidéo, et ensuite je vais reprendre ça tel quel. Mais la problématique, c'est qu'en faisant ça, je vais reprendre la même idée, la même image ou la même vidéo que tous les autres utilisateurs avec, et on rentrera un peu plus dans la machine après, un fonctionnement de l'intelligence artificielle qui fait que par défaut, c'est une machine qui est là pour produire du probable, donc qui a une tendance à l'homogénéisation dans le mode de fonctionnement qu'elle a. Donc ça, c'est la voie tapis roulant, mais sur la créativité, je pense que ce n'est pas une fatalité. Et il y a une voie plus tapis de course sur la façon dont je vais m'en servir pour penser contre moi-même. Si, par exemple, j'ai une idée, je vais demander à l'IA de trouver les points faibles de mon idée ou des contre-arguments à mon idée. Et donc, ça va me faire avancer dans ma réflexion. Et donc, c'est pour ça que je dis, il y a un côté un peu tout cuit, tout prêt, où je reprends tel quel ce que produit l'IA. Et là, c'est le danger de l'homogénéisation. Mais il peut y avoir une autre façon de s'en servir où je vais plus, et je pense qu'on va creuser davantage ensuite, apporter, on va dire, ma touche, mes idées, et je vais aussi m'en servir pour penser contre moi. Et donc, dans ce cas-là, ça peut vraiment me permettre d'aller plus loin.
Ça, on revient sur l'idée de flemme. Il ne faut pas avoir la flemme d'une entreprise. Effectivement, si on a une idée d'entreprise de livre et qu'on demande à l'IA, il est possible que d'autres en aient eu. D'ailleurs, entrons tout de suite dans le moteur, en fait. Tout ce dont on va parler l'aspect subtilisant, l'aspect piège de l'intelligence artificielle, pour le comprendre et pour l'entendre, il faut rentrer dans la mécanique. Donc, ces intelligences artificielles-là, donc on en a cité certaines comme Chat, GPT, Gemini, Claude, mais il en existe plein d'autres sur plein de sujets particuliers. Comment ça fonctionne ?
Alors, donc là, on parle en gros d'intelligence artificielle générative qui propose des applications grand public pour pouvoir utiliser ces intelligences artificielles qui vont venir produire soit du texte, de l'image, de la vidéo, des présentations, PowerPoint. Enfin, il y a toutes sortes de contenus qu'on peut leur faire générer. Et on va dire que le point commun de ces plateformes, c'est que moi, utilisateur, j'arrive... et on me demande qu'est-ce que je veux faire, et souvent ce type de question, que voulez-vous faire aujourd'hui ? Et j'ai un champ de saisie où je vais venir saisir ma requête, donc cette requête, où on appelle ça un prompt, où je vais décrire à l'IA ce que je cherche à produire aujourd'hui. Donc je mets mon prompt, et après il y a certaines interfaces où je peux vraiment avoir une discussion pour affiner, d'autres où je dois mettre un nouveau prompt. Donc ça, c'est, on va dire, la partie émergée de l'iceberg, c'est ce que je vois en tant qu'utilisateur final. Mais je vais prendre cette question comme un moyen de remonter, on va dire, la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle pour comprendre comment est-ce qu'on arrive à ces interfaces-là. Parce que souvent, on a l'impression que, bah voilà, c'est ça, j'ai cette interface, je parle à l'IA et voilà, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Et en fait, sur ce qui se passe derrière, on va remonter au tout début de la chaîne de valeur où, pour produire ces IA, on a déjà besoin de produire du matériel informatique et notamment des cartes graphiques. Donc, il y a tout un enjeu de ressources qui sont extraites pour pouvoir construire ces cartes graphiques. Ensuite, ces cartes graphiques, elles vont servir à avoir des serveurs qui vont aller dans des centres de données et dont on va se servir pour faire tourner les intelligences artificielles. Et quand je parle d'intelligence artificielle, ici, je parle des modèles qu'on a besoin d'entraîner, parce qu'en fait, nous, on voit la couche des applications, mais en dessous, elle est soutenue par une couche des grands modèles d'intelligence artificielle ou des modèles de fondation. Là aussi, il y a plusieurs termes qui sont plus ou moins synonymes, mais on a besoin d'entraîner ces IA pendant des semaines, voire des mois, pour qu'ensuite, moi, utilisateur, je puisse faire ma requête et que l'IA sache la générer. Donc, en gros, mon point, c'est de dire, on pourra creuser davantage après, mais en propos liminaire, déjà, on a une forme de matérialité derrière ces intelligences artificielles qui nous échappe en tant qu'utilisateur final, parce qu'on voit que la plateforme très minimaliste, d'ailleurs, la plupart du temps, où je mets juste mon texte dans un petit encadré, mais derrière, il y a tout ce process-là dont souvent on ignore le fonctionnement.
C'est un peu la... Vous en parlez d'un moment dans le livre, vous donnez cette idée de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, il faut imaginer une immense bibliothèque, ou alors, pour les amateurs de science-fiction fondation, une immense base de connaissances alimentée au quotidien. Et à l'intérieur de cela, il y a des mécaniques qui vont puiser, il y a des algorithmes, en fait, qui vont puiser cette connaissance-là, la relier, et... avec ça, répondre à une question d'un grand public. C'est ça, en fait, ou pas ? Ou je suis trop naïf dans la manière dont je le présente ?
Non, c'est une bonne question. Sur comment est-ce que fonctionnent ces grands modèles qui, du coup, sous-tendent les applications qu'on utilise au quotidien ? Effectivement, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de données pour pouvoir s'entraîner. Donc, il y a eu toute une phase, on va dire, initiale où ces données, elles ont été récupérées, notamment en ligne, sur des sites web, sur des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de données qui ont été captées et qui ont permis d'entraîner ces modèles. Avec à chaque fois, donc pour entraîner un modèle, chaque entraînement de modèle, c'est des semaines, voire des mois, donc c'est très long. Et donc, souvent, vous entendez parler de « tiens, il y a telle nouvelle version qui est sortie ». Bah, du coup, ça va être une nouvelle version d'un modèle. Donc, ça veut dire qu'on a réentraîné un modèle avec des données supplémentaires. Et donc, ces données, elles peuvent être effectivement très variées. Ça peut être du texte. Quand on parle de texte, ça peut être aussi bien des articles, des messages sur les réseaux sociaux, sur les forums, des livres. Ça peut vraiment être des sources très diverses, des images. Donc, ces images, pareil, ça peut être des images puisées sur des sites web, des créations d'artistes, des images d'archives. On peut vraiment avoir une galaxie d'images. Et c'est la même chose sur les autres types de contenus, que ce soit de la musique, parce qu'on peut aussi générer de la musique, de la vidéo. Donc, on a besoin d'avoir en fait ces grands corpus de données qui sont captés pour pouvoir entraîner l'intelligence artificielle. Et en fait, la façon dont s'entraînent ces IA génératives, c'est vraiment pouvoir, une fois qu'elles ont ingurgité tout ce contenu, avoir cette capacité à pouvoir en générer de nouveaux qui soient différents de ce sur quoi elles se sont entraînées initialement.
Et alors, derrière ça, vous dites, donc elle va puiser en fait des données. Vous parlez de réseaux sociaux, vous parlez de qui sont publics, mais également de données lorsque je donne la possibilité à un réseau social ou à une boîte mail d'utiliser mon propre contenu. Il peut être utilisé et donc se retrouver dans ces grandes bases dans l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps, mais j'ai trouvé plutôt pertinente. À partir du moment, du coup, où si moi, je fais une note, qui est une note stratégique dans mon entreprise, ou une lettre d'amour, ou n'importe qui, que je nomme les personnes, à partir du moment où cette lettre ou cette note, je la propose à ChatGPT pour l'augmenter ou l'améliorer ou l'ajuster, est-ce que ça veut dire que ce que j'ai produit, et avec les noms, les personnes que j'ai produit, entre dans ce magma d'informations, et si demain une personne pose une question qui de près ou de loin concerne ou peut concerner la note que j'ai faite, est-ce que mes informations vont revenir? Je vais le dire différemment, je pense que les gens peuvent comprendre ça, mais si demain, moi je m'appelle Arnaud Chéniaud, demain j'écris ma bio sur ChatGPT, je propose à ChatGPT d'ajuster ma bio, est-ce qu'une autre personne qui demain après mon nom pourrait retrouver certains éléments de ma propre bio, donc ce que j'ai écrit dans la réponse à son prompt?
Alors, très bonne question. Pour y répondre, je dirais qu'il y a différents paramètres. Le premier paramètre, c'est quelle version vous utilisez de ChatGPT ou des autres outils. Est-ce que c'est une version payante ou non? Et si c'est une version payante, lisez les CGV pour voir les garanties que vous avez sur le fait que vos données ne soient pas utilisées. Il y a différents plans, on va dire, qui réutilisent plus ou moins vos données. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous êtes sur une version gratuite, alors effectivement, la règle de base, c'est de ne pas mettre d'informations confidentielles parce que derrière, ça tombe un peu, comme vous le décriviez, dans cette espèce de pot commun de données qui peuvent potentiellement servir à du réentraînement de l'intelligence artificielle. Après, de là à savoir quelles données vont être réutilisées, ça c'est plus difficile à dire parce qu'il y a une forme de filtrage, notamment en fait quand on va entraîner ces grands modèles de langage, il y a la première phase que je décrivais, je le schématise, hein, mais une première phase où voilà, ils prennent ces données, ils s'entraînent, et après il y a une deuxième phase souvent d'apprentissage par renforcement, je vais le traduire comme ça, où en fait cette fois-ci on va resserrer en disant qu'il y a plutôt telle source de données que telle autre qu'on veut utiliser, il y a tel comportement qu'on veut favoriser par rapport à tel autre, donc il se peut qu'il y ait une forme de tamis, on va dire, de données, où à la fin votre donnée spécifique ne ressort pas, mais vous prenez un risque, donc il ne faut pas mettre de données confidentielles dans des modèles gratuits.
Jamais mettre de données confidentielles et bien lire les CGV, qui font généralement 14 pages. Mais effectivement, il y a un terme qui revient souvent, c'est celui du prompt. Et le plus simple en vérité, encore une fois, je prends les intelligences artificielles génératives, mais le prompt, on le retrouve à différents niveaux et sur d'autres modèles. Le prompt le plus simple, c'est j'ai un mail et j'envoie le mail à l'intelligence artificielle générative et je lui dis ajuste-moi ça, optimise-moi ça, fais mieux, etc. C'est un prompt, ça?
Alors, ça, c'est le prompt de la flemme, je dirais, dans le sens où c'est un prompt qui marche et probablement vous allez avoir la bonne réponse à ce que vous demandez. Après, si vous vouliez vraiment prompter dans les règles de l'art, vous pourriez aller un peu plus loin dans les instructions que vous donnez à l'intelligence artificielle. Et cette question du prompt, je la trouve assez intéressante parce que, en fait, en tant qu'utilisateur, Le prompt, c'est la marge de manœuvre, on va dire, qu'on a pour guider l'intelligence artificielle. Et donc, souvent, on se focalise uniquement sur le prompt en voyant un côté un peu baguette magique dans le prompt, en disant « si je sais prompter, alors je sais maîtriser l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles ». Et en fait, pour moi, il y a une forme de, j'ai envie de dire quand même, de piège là-dedans, parce que c'est pas parce qu'on sait prompter qu'on comprend le fonctionnement de ces IA. Et je trouve qu'en tant qu'utilisateur final, on a souvent une marge de manœuvre qui est trop réduite, parce qu'elle est réduite uniquement à cette question du prompt, alors qu'en fait, il y a plein d'autres paramètres qui ne nous sont pas proposés en tant qu'utilisateur. Alors, petit à petit, ça avance très vite. Hein, donc, on commence à pouvoir, dans certaines interfaces, préciser des instructions supplémentaires en disant, par exemple, à l'intelligence artificielle, je veux que tu ne me fasses jamais aucune flatterie et que tu me parles de telle ou telle façon, avec telle ou telle tonalité. Donc, on commence à pouvoir un peu personnaliser, mais on pourrait aller plus loin pour choisir, par exemple, quel type de source de données, dans quelle zone géographique, ce genre de choses pour aller au-delà simplement du prompt dans les instructions qu'on peut transmettre à ces outils d'IA générative.
Il y a eu, alors c'est peut-être une aparté, mais il y a eu beaucoup de débats sur une sorte de... sur une égalité en France, une égalité des chances, une égalité d'accès à l'information, au sens que via ce prompt, ou via en tout cas, oui, via le prompt, la connaissance du prompt ne nécessitait pas, pardon, la compréhension fine de la mécanique de l'intelligence artificielle. Donc ça voulait dire que des gens qui sont aujourd'hui déconnectés du web au sens de utiliser Google, c'est assez simple, mais il y a des mécaniques derrière qui sont très très complexes. Ça paraît être un immense chantier, une immense montagne pour pouvoir rentrer dans les méandres de l'internet. Mais là, en fait, il y aurait une clé qui serait ce fameux prompt. Et la dame de 80 ans qui habite dans une zone où il n'y a pas vraiment beaucoup de connexion internet, et à un côté de ça, le trader de la Défense à Paris, se retrouveraient sur une forme d'égalité parce qu'ils auraient le même outil et à condition d'avoir une connaissance, à minima, une connaissance identique de ce qu'est un prompt. Donc, le schéma, c'était l'intelligence artificielle va en fait recréer une forme d'égalité entre les personnes à condition de maîtriser à minima cette connaissance-là et pas besoin de connaître toutes les particularités mécaniques, toutes les subtilités technologiques, donc une forme de démocratie de la connaissance. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, cette question, elle est passionnante parce que effectivement, on peut avoir cet enjeu de se dire finalement, tout le monde va être à la même page, sauf qu'il y a quand même un aspect qui est très important et que vous rappelez sur quelles connaissances on a quand même un peu plus approfondies de la façon dont fonctionne cette machine. Alors, quand je parle de connaissances, je ne dis pas être capable de faire une IA soi-même, de la coder de A à Z, mais plutôt comprendre, on va dire, les grands mécanismes, parce qu'il y a des études qui ont montré que les personnes qui ne comprennent pas ces mécanismes-là sont les personnes qui vont être les plus crédules d'une certaine façon vis-à-vis des discours marketing de l'IA et même vis-à-vis de la façon dont elle s'empare de ces outils. Et moi, c'est aussi quelque chose que je vois autour de moi avec des personnes, parfois, on va dire, il y a une question d'âge, mais pas que, mais en gros, qui ne comprennent pas très bien les tenants et aboutissants de ces outils, qui du coup vont reprendre tel quel ce que dit l'intelligence artificielle, qui vont juste, du coup, parfois reprendre des informations erronées ou avoir l'impression que si c'est l'IA qui l'a dit, alors l'IA, c'est tout, elle a forcément raison, donc ça peut être que juste. Donc, il y a cet enjeu d'avoir une vision, on va dire, complète des forces et faiblesses de cet outil-là pour s'en servir à bon escient. Et après, le point que vous soulevez, c'est celui que j'appelle de la moyennisation des compétences, où on a différentes études qui ont montré qu'en gros, ça permet, pour des personnes qui auraient, ça a été montré notamment sur des consultants, des personnes qui auraient, on va dire, un niveau inférieur, peuvent gagner des points. Et celles qui auraient un niveau supérieur gagnent aussi des points en utilisant l'IA, mais un peu moins que celles qui ont un niveau inférieur. Donc, grosso modo, ça s'équilibre. Donc ça, c'est un bon point qui est intéressant. Mais du coup, je trouve qu'il y a plusieurs effets de bord qui peuvent émerger de ça. C'est déjà, du coup, ça entraîne une évolution de nos standards. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, si demain, en utilisant l'intelligence artificielle, tout le monde peut faire, par exemple, une lettre de motivation nickel, sans faute d'orthographe, alors celui qui va faire une lettre de motivation avec des fautes d'orthographe On va se dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, il y a une forme de nouveau standard vis-à-vis des compétences qui peut tendre à s'aligner sur celui de ce qu'on peut produire avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un premier point, même si vous faites votre lettre de motivation et que vous la reprenez telle quelle, vous direz la même chose que tout le monde, mais ça, c'est un autre sujet. La problématique, du coup, c'est le fossé qui va se créer avec les personnes qui ne maîtrisent pas cette technologie, parce qu'en France, on a encore beaucoup d'électronisme. Électronisme, donc c'est cette incapacité à servir des outils numériques. Ça concerne des personnes d'un certain âge, mais ça concerne aussi des jeunes. Et donc, il faut quand même s'assurer d'éviter d'avoir un décrochage trop important. Et je pense notamment à certaines professions où on peut anticiper que, par exemple, ça va devenir une nouvelle norme de travailler avec l'intelligence artificielle. Ce sera peut-être le cas, je ne sais pas, pour des professions comme des graphistes ou faire de la musique pour des jingles de publicité ou des choses comme ça. Et donc, les personnes qui vont utiliser l'intelligence artificielle vont être plus rapides, potentiellement moins chères, donc avec un alignement des standards là-dessus, vis-à-vis des commanditaires, versus des personnes qui ne maîtriseraient pas. Donc ça peut être un effet de bord qui peut être compensé si on décide de prendre des mesures, par exemple, en tant qu'entreprise, en disant « je ne veux pas que le graphiste travaille avec l'intelligence artificielle ou il ne doit pas s'en servir pour faire ci et ça, mais plutôt ça et ça ». Donc, les choses peuvent être cadrées, mais je pense qu'il va quand même y avoir des enjeux d'alignement sur de la compétence, mais aussi potentiellement sur de la rapidité d'exécution ou aussi juste des coûts du travail dans certains secteurs.
Il y a un vrai risque aussi de rupture de marché pour certains. Parce que ce qui se dessine, vous le dites avec élégance, mais si dans les métiers qui aujourd'hui, ou en tout cas les personnes qui sont sur des métiers et qui refuseront d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur, pas forcément leur quotidien, mais dans leur activité, quelque part font le choix, peut-être rebelle, peut-être sain d'ailleurs, mais elles font le choix d'être en décrochage par rapport à d'autres qui pourraient l'utiliser. Et c'est malheureux, mais c'est un vrai risque qui peut se passer.
Je pense qu'il y aura effectivement dans certains cas ce décrochage. Après, on peut espérer que dans d'autres, l'humain devienne un nouveau premium, j'ai envie de dire, sur le fait d'avoir des créations 100% humaines ou des choses qui sont faites 100% par de l'humain et non automatisées qui, du coup, vont être plus recherchées. Donc, on peut avoir ce second effet, mais je pense qu'effectivement, principalement, il y aura ce qu'on décrivait. Avec un autre enjeu aussi pour certaines professions, et notamment ces professions créatives, où elles vont et elles font déjà face à des problématiques de parasitisme, je le qualifie comme ça parfois, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, où en gros, on prenait le jingle de publicité, par exemple, la petite musique à la fin de je sais pas, ma publicité sur les réseaux sociaux, je dis n'importe quoi. Ça, c'est des choses où, aujourd'hui, on peut même ne plus faire appel à un musicien et directement, avec des outils d'IA générative, aller prompter son petit jingle, hop, on récupère la musique, on s'en sert. Et donc, potentiellement, c'est une commande qu'on aurait passée avant à un musicien, qu'on ne passe plus à un musicien. Et donc, il y a notamment des études qui ont été faites, par exemple, une étude de la CISAC, qui montre qu'il y a des pourcentages de chiffre d'affaires qui vont se perdre sur ces professions, enfin des revenus qui vont diminuer. Donc ça, c'est aussi cette problématique de comment est-ce qu'il peut y avoir une forme de concurrence entre certains travaux qui étaient faits par des créatifs comme une façon d'avoir des compléments de revenus et des choses que peut faire l'intelligence artificielle.
Après, il y a des choix aussi qui sont des... Je pense qu'on est en décembre 2026. Il y a eu la pub Intermarché avec ce loup qui a atteint près d'un milliard de vues, Made in France, Cocorico, mais surtout avec la ligne de ne pas utiliser l'intelligence artificielle, en tout cas en totalité, pour créer ce film. Et on sent que il y a un esprit revenge derrière. Il y a une vraie volonté aussi de montrer, voilà. On n'est pas sur le jeu de Go, mais où l'intelligence artificielle avait gagné, mais on est sur la belle créativité humaine qui gagne cette fois-ci le combat. Je ne sais pas si c'est un combat, mais en tout cas qui gagne le trophée.
Et c'est hyper intéressant que ça ait été positionné comme ça en disant c'est fait sans intelligence artificielle et ça cartonne autant. Et j'ai envie de dire c'est aussi parce qu'on voit des publicités avec des usages de l'intelligence artificielle assez médiocre, je pense qu'on peut le dire,
oui.
où il y a différentes choses qui se sont pris des retours de bâton dernièrement, mais c'est pas bien fait, c'est des esthétiques qui sont pas terribles, les histoires sont... En fait, on est vraiment dans en plein tapis roulant dans les contenus qui sont produits. Et donc, l'enjeu, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle sans entrer dans le tapis roulant, parce que sinon, effectivement, ça ne plaît pas et on passe à côté de sa cible. Avec toute cette vague aussi du AI slop, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais qui est le slop, moi je le traduis en français comme la bouillie d'intelligence artificielle, qui sont ces contenus assez homogènes, standardisés, le chat qui joue du violon sur les réseaux sociaux, ce type d'images, ça peut être des images, des musiques aussi, qu'on a l'impression d'avoir déjà entendu plein de fois, sans que ce soit d'une très grande qualité non plus. Le rapport de votre collègue où vous vous dites intéressant, et en même temps, ça a l'air un peu creux, un peu vide, et là, vous vous dites, mais peut-être qu'il a utilisé l'intelligence artificielle pour le faire. Et en fait, il y a du coup tous ces contenus relativement pauvres, qui sont déversés en très grande qualité, en très grande quantité, pardon, sur les réseaux, et qui, du coup, sont en plein dans le tapis roulant, parce qu'on est sur un déferlement de contenu standardisé, avec très peu de créativité. Et c'est un une des problématiques de ces IA génératives utilisées n'importe comment et en abondance.
Absolument. Et justement, dans votre livre, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, il y a un point que je trouve vraiment précieux, et on en parle là, quelque part, en replaçant l'humain à l'intérieur de tout ça. Il y a une forme de frustration, de culpabilité, de se dire, finalement, ce que je fais, un mail, une création, ou ce sera moins bien que ce que va me proposer cette intelligence artificielle. Il y a une espèce de dieu-intelligence qui est assez dangereuse aussi, parce que si on regarde, on en reparlera en conclusion, mais si on regarde toutes les théories sur les super intelligences artificielles, ça veut dire que si on considère que l'outil ou cet outil ou cette machine est plus intelligent que nous, et il faut bien redéfinir ce que c'est que l'intelligence à ce moment-là, bah, ça veut dire que oui, c'est Dieu, c'est le nouveau Dieu, et quelque part ça me frustre, ça me descend, ça m'humilie. Et je vais arriver aussi, et vous l'avez dit dans votre livre, je vais arriver à un moment où est-ce que je peux encore envoyer un mail sans le faire valider avant par l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est pas un esprit de rébellion de dire, vous savez quoi, je l'envoie, il y aura peut-être une virgule de trop, j'aurais peut-être oublié une faute, mais bon, il sera, je vaux tout autant en fait.
C'est hyper intéressant cette question, et je pense que tout ça naît de problématiques préexistantes, hein. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'envie d'efficacité slash le besoin de créativité à tout prix. On a initialement, avant l'intelligence artificielle, ce biais d'automatisation où on a tendance à considérer que ce que la machine dit vaudrait plus parfois que notre propre avis ou opinion, parce que ça vient d'une machine et qu'on se dit qu'une machine, d'une certaine façon, c'est plus intelligent que nous. Donc on a déjà cette forme de présupposition d'une supériorité de la machine qui est déjà dans l'air, et donc forcément avec l'intelligence artificielle, quand on se dit mais cette technologie a absorbé tous les savoirs de l'humanité, on peut tout de suite avoir ce complexe d'infériorité en se disant que c'est plus intelligent que nous, sachant qu'il y a quelque chose qui se noue dans le rapport à la confiance, et je cite aussi plusieurs travaux là-dessus dans le livre, où ça a été montré qu'en gros, moins j'ai confiance en mes propres capacités, plus je vais avoir confiance dans l'intelligence artificielle. Il y a même des études qui montrent que des personnes disent se servir de l'intelligence artificielle pour avoir plus confiance en elles. Donc, il y a tout ce rapport sur comment est-ce que, en tant qu'humain, c'est comment je perçois la machine, comment je me perçois en tant qu'humain. Il y a vraiment une relation entre les deux. Et du coup, avec l'intelligence artificielle, effectivement, on est en train d'entrer dans cette espèce de phase où c'est un nouveau, à la fois quelque chose qui est entre un nouveau filet de sécurité où je me dis je vais toujours faire repasser l'IA derrière pour me baquer, être sûr de pas faire d'erreur, un peu comme c'était mon nouveau boss où à chaque fois avant d'envoyer je vais faire relire à l'IA, comme ça je suis sûr que je prends pas de risque. Et en même temps il y a un effet doudou numérique, dans le sens où il y a aussi beaucoup de personnes qui s'en servent pour des problématiques personnelles, en se disant j'ai un problème, je ne peux pas poser la question ou à mon ami, ma mère, je ne sais quoi. Du coup, je vais le poser à l'intelligence artificielle en ayant l'impression que l'IA va le savoir. Et donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui, sur le plan perso, prennent l'habitude de se confier à cet outil et de s'en servir pour les aider à trouver des solutions. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté en fait, assez holistique où finalement, on prend petit à petit le réflexe de toujours se tourner vers l'intelligence artificielle. Et là, on rentre dans... et c'est pour ça que le tapis roulant, à mon sens, reste une image opérante, parce que le tapis roulant, il y a un côté réflexe. Quand vous êtes dans une gare ou un aéroport, vous montez sur le tapis roulant, vous ne réfléchissez pas, vous y allez. Et avec l'IA et ces outils-là, on commence à avoir le même type de réflexe. Je veux faire quelque chose, pour X ou Y raison, j'ai pas envie de m'embêter à réfléchir. Hop, tout de suite, je vais demander à l'IA de le faire pour moi, parce que je veux enlever toute cette friction. Et souvent, je vais même pas réfléchir. Et on rentre dans l'ordre des mécanismes de Daniel Kahneman sur le système 1 et le système 2. Le système 1, celui des réflexes, on fait les choses sans réfléchir. Et donc, on a cette tendance avec l'intelligence artificielle. Paf, je réfléchis pas, je pose la question tout de suite à l'IA. Versus le système 2 qui demande de la réflexion. Et il y a un groupe de chercheurs qui a mis en lumière le fait qu'on pourrait avoir le risque de voir un système 0 émerger. Où, en gros, c'est une façon de fonctionner où on externalise auprès de l'intelligence artificielle, de ces outils-là, des tâches de réflexion. Alors, dans certains cas, ça peut être bénéfique, s'il y a besoin, par exemple, de croiser plein de données, quelque chose que j'aurais jamais pu faire par moi-même, donc tant mieux. Mais il y a d'autres cas où, si je prends l'habitude, dès que j'ai une tâche complexe, mais des choses bêtes, ça peut être, je sais pas, hein, et je vous le dis parce que moi, ça peut m'arriver, je sais pas, je veux faire telle opération de calcul, je sais la faire, c'est juste qu'il va falloir que je me pose 5 minutes, que je réfléchisse et que je fasse ça. C'est tellement plus simple d'aller dans l'IA et lui dire « Ok, calcule ce truc, hop, j'ai ma réponse. » Et à la fin, c'est pas très grave, peut-être que j'aurais pu me servir d'une calculette, etc. Mais en fait, c'est à force, de moins en moins, je vais me tourner vers l'IA, donc je vais perdre l'habitude de faire ce type de calcul ou ce type d'opération. Et donc, à la fin, j'érode en fait mes capacités cognitives à force de moins les mobiliser et de mobiliser l'IA à la place.
Ça signifie vraiment, et c'est dans le cœur de votre ouvrage, c'est de dire qu'il ne faut pas se laisser happer ou séduire par, d'ailleurs, ce qui est un peu aussi une chimère. La puissance de l'intelligence artificielle n'est pas à remettre en cause, mais vous avez cité un certain nombre de choses qui font que, très bien, mais c'est pas, la réponse n'est pas absolue dans cette machine. Donc, il faut l'utiliser au bon endroit, dans la créativité plutôt, peut-être dans la partie prédictive, pour imaginer des nouveaux, aider à trouver des nouvelles idées, pour le texte, peut-être à corriger là où il faut, mais l'avoir en compagnon plutôt qu'en maître, finalement.
Oui, je pense qu'on peut rester sur cette image.
Deuxième titre de livre, maître ou compagnon. Non, mais je comprends l'idée. Et dans un exemple que j'avais entendu aussi, qui a été assez dramatique, si on veut aller au bout du bout sur la place dans l'intelligence artificielle, c'est celle d'utiliser l'intelligence artificielle comme un psychologue, avec des enfants qui ont vraiment l'utilisé vraiment sur un mode, et ça a créé des drames épouvantables, puisque ce n'est pas un humain derrière.
Je faisais référence à ça sur ces usages notamment personnels, où c'est vrai qu'il y a plein de personnes, notamment des jeunes, qui expliquent s'en servir comme un psychologue, parce que il est dispo tout le temps, il est moins cher, et il y a des choses où je vais parfois me sentir plus en confiance de les dire à une machine versus de les dire à un humain. Mais du coup, il y a cette problématique de dépendance émotionnelle à l'outil. Alors, il y a des études qui ont été faites là-dessus, notamment par exemple OpenAI, qui est la société qui opère ChatGPT, qui explique que vraisemblablement, la dépendance émotionnelle, c'est vraiment dans les cas d'utilisateurs qui prennent l'habitude d'échanger avec le mode vocal très souvent de l'intelligence artificielle. Mais même dans cette moindre mesure, cet enjeu de dépendance émotionnelle, je pense qu'il est très fort. Et c'est aussi quelque chose que j'évoque dans le livre en disant, en fait, cet aspect de dépendance à la machine, souvent, on va le traiter sous l'angle des cas dramatiques avec quelqu'un qui va, je sais pas, se suicider après avoir parlé avec un outil d'IA générative ou ce type de cas un peu dramatique. Mais je pense qu'il y a quand même une dépendance du quotidien qui peut être problématique. Et cette dépendance, elle peut être à différents niveaux. Il y a effectivement la dépendance émotionnelle. Si j'ai besoin de parler à l'IA tous les jours pour me sentir bien ou que je commence à avoir une espèce de béquille où je prends l'habitude, d'un point de vue émotionnel, de m'appuyer sur l'IA. Et après, il y a la dépendance vis-à-vis des capacités et des compétences, en se disant, et ça c'est tout un enjeu pour moi sur comment est-ce qu'on introduit l'intelligence artificielle dans les métiers, et comment est-ce qu'on se forme à son métier, avant et même avant son métier, comment est-ce qu'on apprend à l'école avant de se servir d'intelligence artificielle, parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut savoir faire soi-même avant de les faire avec l'intelligence artificielle, parce que sinon, on se crée tout de suite une situation de dépendance où si on sait, on n'a jamais su faire quelque chose par soi-même et on sait le faire qu'avec l'IA, et bah à la fin, non seulement on ne peut pas vraiment évaluer ce qu'a fait l'IA parce qu'on ne sait pas le faire nous-mêmes, mais ensuite, on ne peut plus le faire sans. Donc ça, je pense que c'est aussi un aspect important.
Tout à l'heure, je voudrais juste revenir sur le prompt et toujours sur cette histoire de tapis de course ou de paresse. Dans une de vos interviews, vous avez parlé de prompt tapis de course avec l'idée de s'en servir pour se challenger. Ce serait quoi un prompt tapis de course, vraiment pour un exemple qu'on pourrait avoir de ce type de formulation?
Je pense que c'est vraiment sur le fait de se dire, OK, déjà, avant d'arriver sur ce prompt tapis de course, il y a d'autres éléments qui me semblent clés, notamment le fait de se dire, OK, c'est très important que je garde le premier et le dernier kilomètre de la réflexion. Donc, le premier kilomètre, c'est je réfléchis, en fait, avant de solliciter l'intelligence artificielle, je réfléchis. Je réfléchis certes à mon prompt, mais avant ça, je réfléchis au problème que je veux fournir à l'IA, parce qu'il y a notamment des études qui ont montré que il peut se jouer un biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est le fait que dès lors que l'intelligence artificielle me fournit une réponse tout de suite, alors je vais suivre la réponse de l'intelligence artificielle, là où ça a été montré que si j'ajoute un petit délai de latence, du coup, je commence à réfléchir en fait par moi-même avant de voir la réponse de l'IA. Et donc, je vais plus comparer la réponse de l'IA à ma propre idée. Et comme j'ai mon idée en premier, c'est d'ailleurs celle qui va primer, versus si j'ai d'abord vu l'idée de l'IA, je vais juger à l'aune de l'idée de l'IA. Donc, il y a ce premier aspect sur comment est-ce qu'on réfléchit pour se faire sa propre idée, prendre le temps de réfléchir au sujet, élaborer son prompt. Et le dernier kilomètre, c'est je ne fais pas de copier-coller de ce que m'a dit l'IA. Je relis, je challenge, je vais plus loin, je réincorpore ça dans autre chose, mais en me le réappropriant. Donc il y a un peu, on va dire, ces principes de base. Et sur ce prompt tapis de course, pour moi, c'est ce que j'appelle utiliser l'intelligence artificielle pour penser contre soi-même. Donc c'est vous avez produit quelque chose, quoi que ce soit, vous allez soumettre à l'IA pour vous aider à penser contre vous-même. Donc, quelles sont les idées que vous n'avez pas eues, les angles que vous n'avez pas vus, les contre-arguments? Plein de choses qui, en soi, ne sont pas là pour que l'IA vous donne la bonne ou la mauvaise réponse, mais plutôt pour que l'IA vous fasse réfléchir sur ce que vous avez fait, pour vous donner des nouvelles pistes pour aller plus loin, pour voir les choses sous un autre angle. Cet enjeu de décentrement, où souvent c'est difficile de se décentrer tout seul, c'est pour ça qu'on va aller parler à son collègue, à son conjoint, je ne sais quoi, de « tiens, j'ai tel problème, qu'est-ce que t'en penses ?» Et pour avoir du coup ce que nous dit l'autre personne nous fait réfléchir. Et là, l'idée, c'est d'avoir le même type de ping-pong, on va dire, avec l'intelligence artificielle.
C'est très intéressant, ça, ce que vous avez dit sur le début et la fin, le dernier kilomètre, le premier et le dernier kilomètre. Et donc, se garder cette intelligence artificielle, comme on l'a dit tout à l'heure, en compagnon, mais tout en le challengeant soi-même et tout en se faisant challenger par cette intelligence artificielle.
C'est ça.
Vous vouliez compléter ? Allez-y.
En fait, sur le fait de se faire challenger, pour moi, ce qui est très important dans l'approche, c'est vraiment pas d'attendre de l'IA nous dire c'est bien ou c'est pas bien. Parce que d'ailleurs, il y a un certain nombre de biais, notamment de flatterie algorithmique, où l'intelligence artificielle va vous dire des choses qui vous font plaisir. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un peu la récompense de l'IA qui dit « t'as bien fait ». Et dans ce qui n'est pas bien, l'idée, ce n'est pas non plus de prendre pour l'alpha et l'oméga ce que dit l'IA, mais plutôt de déclencher en nous une réflexion avec cet autre point de vue qu'on n'a pas envisagé.
On a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé de cette manière de l'avoir à ses côtés, on a parlé un peu de créativité. Il y a un dernier angle que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est celui des univers. Alors quand je dis des univers, c'est l'intelligence artificielle, par exemple, dans l'université, dans l'éducation. Il y a plein de choses qui se disent aujourd'hui, plein de professeurs, et vous en avez cité également dans vos livres, qui aujourd'hui sont très étonnés de ce qu'ils peuvent recevoir comme copie, mais utilisent aussi l'intelligence artificielle pour pouvoir en corriger. Donc, je vous donne les trois endroits où j'aimerais sur lesquels je voudrais qu'on échange, et peut-être le dernier, comme une conclusion de cette interview. Le premier, c'est l'école et l'université. Le deuxième, c'est l'entreprise. Et le troisième, c'est la culture. Et j'aimerais qu'on creuse un peu ce sujet de culture et d'intelligence artificielle. Donc d'abord sur l'université et l'école, comment est-ce qu'on peut encore évaluer l'acquis, la connaissance, quand l'intelligence artificielle est partout?
Alors, je pense que ça, il y a un sujet qui est très intéressant là-dessus, qui est il faut que les choses évoluent. Quand je dis il faut que les choses évoluent, il ne faut pas qu'on demande à des humains de faire des choses de robots, dans le sens où je pense qu'il y a un certain nombre de compétences à faire évoluer, parce qu'on demande aujourd'hui à des gens de faire des choses que des IA peuvent très bien faire. Néanmoins, la limite de ça, c'est de dire il y a quand même des savoirs ou des compétences qui sont incontournables et où, même si aujourd'hui je peux avoir une IA qui les fait, il faut que j'apprenne à les faire et il faut que je maîtrise ces savoirs et ces compétences avant de pouvoir me servir d'une IA pour le faire. Donc ça, c'est cet enjeu de comment est-ce que je vais avoir un aspect où je vais pouvoir maîtriser une compétence tout en faisant quand même évoluer ce qu'on attend des étudiants, parce qu'il ne faut pas qu'on arrive dans un monde où les étudiants font leurs devoirs avec des IA et les enseignants l'évaluent avec des IA, ça n'a aucun sens. Donc je pense que voilà, y a ces attentes sur les compétences à développer, à faire évoluer. Après, en tant qu'enseignant, c'est effectivement hyper challengeant. Moi, je le vois, j'enseigne notamment à Sciences Po, et j'ai beaucoup expérimenté sur les modalités d'évaluation, où en fait, cette fois-ci, je demande ouvertement aux étudiants d'utiliser l'IA pour faire un de leurs devoirs de fin de semestre. Mais je vais évaluer la discussion qu'ils ont avec l'IA et non pas le résultat final. Comme en mathématiques, je vais évaluer la démonstration pour voir comment ils s'en servent. Et tout mon enjeu, c'est est-ce qu'ils s'en servent comme ce que j'essaie de leur transmettre, c'est-à-dire en mettant leurs idées, leurs réflexions et en guidant l'IA au lieu de se laisser guider par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je teste. Mais je pense que du coup, pour les enseignants, il y a tout un champ d'expérimentation pédagogique qui est très intéressant et en même temps un enjeu de savoir quels sont les fondamentaux socles qu'il faut garder et quelles sont d'autres choses où, effectivement, aujourd'hui, ça n'a pas de sens de demander à des étudiants de faire ça. Même si pour les étudiants, il faut aussi comprendre et j'ai l'impression d'être d'une certaine façon un peu chanceuse, moi, de ne pas m'être retrouvée aujourd'hui, en ce moment, à faire mes études, parce que, bah oui, la facilité à portée de main, et moi, j'avais un de nos étudiants qui disait « Ah bah oui, moi, du coup, je gagne plein de temps, j'ai beaucoup moins de devoirs à faire, c'est génial. » Sauf en fait, en tant qu'étudiant, il y a des devoirs qui sont nécessaires pour maîtriser des compétences et apprendre. Donc, je pense qu'il y a ce besoin de revenir à la racine de pourquoi on fait tel exercice et pourquoi est-ce qu'on apprend à faire comme ça pour comprendre ces choses-là, au lieu de toujours chercher à court-circuiter avec l'IA, ce qui, en fait, à terme, fragilise les acquis de compétences.
L'idée d'apprendre à apprendre, j'imagine, c'est un peu ça. Ouais. Dans les entreprises, la problématique, elle est que, très globalement, tout commence à se ressembler. Un mail ressemble à un autre mail. Une proposition commerciale ressemble à une proposition commerciale. Des entretiens, les formats des entretiens ressemblent à tous les formats d'entretien. Donc là, en fait, il y a quand même l'idée d'un nivellement par le bas et une espèce de tout devient acceptable, tout devient interchangeable. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut devenir ce support dont vous parlez pour les entreprises?
Je pense que le biais que vous décrivez, c'est le tout IA. Avec ce réflexe de... désolé, on a eu un bon paquet d'anglicismes depuis le début de cet échange, mais ce qu'on appelle notamment outre-Atlantique le réflexe du AI first, c'est-à-dire des employeurs qui vont se dire, avant de recruter un humain, je vais d'abord, et notamment un junior, je vais d'abord me poser la question, est-ce qu'une IA peut le faire? Et donc, c'est un réflexe de, je vais d'abord me dire, est-ce qu'une IA peut le faire, avant d'aller chercher quelqu'un à embaucher. Et donc ça, c'est un premier problème, parce qu'en fait, en prenant le réflexe de se dire, et souvent sur les enjeux de disparition d'emplois, etc., on se rend compte que sur un emploi donné, c'est extrêmement rare qu'il y ait 100% des tâches automatisables. Il reste toujours une part de tâches qui est non automatisable, mais il y a effectivement des jobs où au lieu d'avoir, je ne sais pas, 10 personnes, je peux le faire tourner avec 5 personnes. Et donc la problématique, c'est de se dire, si j'embauche moins de juniors aujourd'hui parce que j'utilise des IA pour le faire, quid de demain? Parce que demain, j'ai moins de juniors, donc j'ai moins de personnes expérimentées à la fin. Et il y a aussi tout cet enjeu de comment je vais former mes juniors, parce que si, dès le début, je prends cet enjeu de les rendre dépendants à des IA dans certains process, bah, à la fin, j'ai aussi des seniors qui sont moins expérimentés. Et il y a des études qui ont montré que c'est étonnamment et à contre-courant de ce qu'on pourrait penser, mais c'est parfois des profils seniors qui tirent le meilleur parti de l'intelligence artificielle. Ça avait été montré notamment pour des designers, parce qu'en fait, ils ont déjà tout un corpus de savoir, de pratiques ou de références, où du coup, c'est ceux qui sont les mieux placés pour s'en servir à bon escient. Versus des juniors qui débutent, qui ne maîtrisent pas encore complètement leurs propres compétences, qui se sentent un peu en concurrence avec l'IA, qui s'appuient un peu trop dessus. Donc c'est vraiment cet aspect de comment est-ce qu'on continue à développer, on va dire, les compétences dans l'entreprise, comment est-ce qu'on continue à embaucher des juniors et à les faire monter en compétences pour à la fin avoir des personnes expérimentées. Et aussi comment on met l'IA au bon endroit, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont fait des annonces phénoménales en disant on a supprimé plein de postes pour mettre de l'IA, sauf qu'il y en a qui ont réembauché ensuite. Après, il y a cet aspect aussi de AI washing où, en fait, peut-être que c'est une façon de détourner un peu l'attention vis-à-vis d'autres problématiques. Mais je pense que c'est vraiment un court-circuit de se dire qu'il faut mettre de l'IA partout. Il y a plein d'endroits où ça fait sens d'en mettre et c'est intéressant. Mais il y a d'autres endroits où, au contraire, il faut se dire non, ça, il faut garder une patte, une plus-value humaine, parce que sinon, on va dire la même chose que tout le monde, par exemple, et on va plus se démarquer. Et du coup, ça peut finir par complètement couper à la racine certaines choses. Si par exemple on communique en tant qu'entreprise, c'est pour distinguer de ses concurrents. Sauf que si on communique en faisant, je sais pas, ses posts LinkedIn avec une IA et qu'on met pas plus de jus de cerveau dedans, à la fin on a les mêmes posts LinkedIn que ses concurrents. Donc en fait, ça revient.
Les mêmes smileys.
C'est ça exactement, de communiquer à la fin.
Pour finir cet échange, je voudrais qu'on aille sur la culture avec. Je voudrais l'introduire sur un documentaire que j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur, à la télé, qui parle de deux artistes, je crois que ça s'appelle Ovius, et c'est deux artistes qui ont créé la première peinture, première œuvre plutôt, par l'intelligence artificielle directement. Et l'histoire est folle puisqu'ils ont vendu, proposé à la vente chez Christie's cette œuvre. Et ils pensaient en retirer 3 000 $ ou 4 000 $, et ça a été vendu, je crois, 400 000 $. Et ça, en fait, c'était la première œuvre faite par l'IA. Et ma question derrière, ce phénomène, alors c'est un phénomène, je ne sais pas si c'est tenu, si c'est en train d'évoluer encore aujourd'hui, mais d'abord, première question, est-ce que l'IA peut faire de l'art ? Ça, je pourrais refaire peut-être une heure dessus. Mais surtout, comment est-ce qu'à la culture se comporte vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle est un barrage? Est-ce qu'elle est un allié? Est-ce qu'elle est quelque chose qui peut empêcher cette uniformisation? Alors, c'est un large sujet, je l'entends bien. Vous venez de ce monde-là avec Ask Mona. Si vous pouviez nous donner quelques pistes, peut-être quelques livres, peut-être quelques séries, peut-être à découvrir, est-ce qu'il ferait une belle fin pour cette interview?
Effectivement, vaste question. Je vais essayer de trouver quelques grandes lignes, on va dire, de réponses dessus. Donc, le premier aspect que vous soulevez, c'est l'IA et la création artistique. Et effectivement, il y a Obvious qui, il y a quelques années, a fait cette vente aux enchères assez phénoménale. C'est pas les seuls, il y a eu d'autres artistes qui ont fait d'autres ventes aux enchères plus ou moins sensationnelles. Mais derrière ce sujet-là, il y a le sujet de la création assistée par IA. Avec tout la question que ça soulève, c'est est-ce que oui ou non on peut automatiser à 100% la création ? Si oui, est-ce qu'on parle encore de création artistique ? Est-ce qu'on a un artiste ? Est-ce qu'on a une œuvre ? La question de la réception aussi de ces œuvres-là. Et il y a des études qui ont montré que, par exemple, des personnes reçoivent, vont même parfois préférer des œuvres générées avec l'IA que des œuvres faites par des humains. Donc il y a toutes ces questions sur les conditions de production et de réception de ces œuvres faites avec de l'intelligence artificielle, avec vraiment un curseur de une touche, on va dire, très minimale d'intelligence artificielle à quelque chose où, au contraire, c'est très fortement utilisé, c'est-à-dire. À mon sens, il y a toujours un humain dans la loupe, comme on dit. Il y a toujours un humain quelque part dans le process. On n'a pas des IA qui vont se lever le matin, non, parce qu'elles ne se lèvent pas. C'est des outils, c'est des machines. Donc, il y a toujours un humain quelque part, mais il y a un niveau d'intervention de l'humain qui est plus ou moins important. Donc ça, c'est l'enjeu de la créativité. Désolée, je l'ouvre et je le referme sur la création artistique parce qu'il est très vaste. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses dans la culture sur ces enjeux d'intelligence artificielle. On va s'en servir aussi bien dans tout ce qui est la gestion des collections. des musées, des bibliothèques, des archives sur comment je vais pouvoir explorer des immenses catalogues de contenu pour pouvoir opérer des rapprochements, des recoupements, pour pouvoir justement en tirer des informations. Donc il y a tout un aspect usage de l'IA, pas que l'IA générative, sur cet aspect-là. Il y a aussi un autre champ qu'effectivement on explore beaucoup avec Askmona, qui est la médiation culturelle. Comment est-ce que je vais permettre à des publics de découvrir différemment des œuvres en dialoguant avec une IA ? Donc ça, c'est encore autre chose. Et après, pour reboucler la boucle, et donc dans cette boucle, elle est incomplète, hein, parce qu'il y aurait beaucoup d'autres segments et cas d'usage à explorer. Mais si on revient à cet enjeu de la création, moi, je pense qu'il y a aussi un rôle que peuvent avoir les artistes et les institutions culturelles au sens large dans l'acculturation à l'intelligence artificielle. Parce que, donc, on a parlé juste avant de l'école. Et je pense que bon, bah, l'école, c'est en train de se caler, mais d'ici quelques années, on aura une bonne façon d'apprendre l'intelligence artificielle à l'école, je l'espère. Mais en fait, la plupart de la population n'est plus à l'école. Donc, comment est-ce qu'on va accompagner le reste de la population dans le fait de savoir utiliser cette technologie à bon escient ? Certes, il y a les entreprises qui forment plein de salariés, mais tout le monde ne sera pas formé via son entreprise. Donc, il y a cette question de est-ce que des musées, des bibliothèques, des salles de spectacle peuvent aussi produire des productions culturelles qui nous aident à réfléchir notamment à l'impact de cette technologie, avec plein d'artistes qui ont fait des travaux fascinants pour nous montrer des facettes cachées de l'intelligence artificielle pour nous permettre d'avoir un autre point de vue sur les impacts de cette technologie ou son fonctionnement. Donc, je pense que ça, c'est aussi un aspect clé.
Si, pour les personnes qui ont écouté cette interview, qui vous ont découvert, qui ont découvert votre livre, qui vont certainement aller l'acheter pour creuser davantage le sujet, si vous aviez un conseil ou une suggestion, un pas de côté à faire pour eux, qui peut être culturel, ça peut être un film à voir, un livre à lire, un autre livre que le vôtre à lire, une manifestation culturelle, vous les inviteriez à faire quoi ?
Je pense que ma réponse va être un peu décevante parce qu'il y a eu pas mal de super expositions dernièrement, mais elles sont terminées, elles ont une durée limitée, donc compliqué d'aller les voir. Du coup, moi j'ai vraiment cet aspect de l'exposition qui est du spectacle, qui est une façon de vivre aussi et de partager ensemble autour de ces technologies que je trouve très intéressant. Donc là, actuellement, je n'ai pas de recommandation, mais je peux recommander des artistes qui travaillent autour de ces sujets, comme par exemple une artiste française, Justine Aymar, qui produit souvent des expositions, qui est très intéressante. Il y en a plein d'autres. Hein. Je vais rester sur la ligne des artistes femmes, mais par exemple, Anna Riedler, qui est une artiste qui, elle, a beaucoup travaillé sur cette question des jeux de données pour entraîner l'intelligence artificielle et de ce que ça soulève en dessous comme question. On a en France, on a aussi Albertine Meunier. Voilà, plein d'artistes. Là, j'ai pris le parti de citer des artistes femmes, mais qui ont des œuvres très intéressantes pour réfléchir aux enjeux de l'intelligence artificielle.
Merci, Marion.
Merci beaucoup.